Aujourd'hui, c'est le thème de l'appel à la liturgie qui suit Noël, eh bien, le prolonge la joie de Noël à travers l'appel. Parce que vraiment, l'homme sans vocation, c'est un homme qui a une vie qui est privée de sens. Et c'est pourquoi nous consacrons au moins nos actes à Dieu pour qu'il les transforme en production de sens. Car l'homme a besoin d'être éclairé par la vérité. L'appel de Samuel, qui est si beau, nous dit aussi combien Dieu aime les enfants et il ne les laisse pas grandir dans un monde incertain, comme nous l'imaginons, sans intervenir, sans veiller, sans être là. Et même si nous ne le sentons pas, eh bien lui, il nous aime, il aime chacun d'entre nous et il veille sur chacune de ses créatures dès le premier moment. Alors il y a des vies exemplaires, c'est le cas de Samuel, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Et on voit que le Seigneur lui impose une formation en quelque sorte. Tout n'est pas fait d'emblée. Il faut que Samuel comprenne la façon dont Dieu l'interpelle. Il faut qu'il s'habitue à écouter le Seigneur. C'est le but de ces levées successives. Par trois fois, il va trouver Élie, le grand prêtre, qui l'héberge, qui s'occupe de lui. Et il doit finalement recevoir de ce grand prêtre la clé du mystère et la manière de communiquer avec Dieu. C'est vrai qu'il y a toute cette transmission qui existe. Mais une fois qu'elle est communiquée, une fois que l'âme a fait le pas qui convient, ou les pas au pluriel d'ailleurs, c'est le Seigneur qui se charge de la formation, parce que c'est lui qui donne un sens à notre existence, il nous donne une vocation. Le climat de joie, de simplicité qui s'exhale au bord du Jourdain avec Jean-Baptiste est dans la même tonalité. C'est l'appel des premiers disciples. Un climat de joie qui nous dit, qui prolonge Noël, et en même temps Noël c'était très discret, il y avait très peu de témoins, tandis que là il y en a beaucoup. Mais c'est le même climat. Et la liturgie fait bien de rebondir directement de Noël, la naissance du Christ, sans s'interroger trop, sans trop développer la vie cachée, pour tout de suite déboucher sur la vie publique. Parce que vraiment, la manifestation publique de Jésus est vraiment le prolongement de Noël. Et il y a ce contexte de l'appel qui est celui d'une attente eschatologique, celui de l'attente messianique. Les gens, les contemporains du Christ, pas tous, mais quelques-uns, ceux qui étaient fervents, ceux qui étaient religieux au sens vrai du terme, attendaient vraiment un exploit de la part de Dieu, quelque chose de totalement extraordinaire. Ils ne savaient pas que c'était déjà arrivé. Mais en tout cas, Dieu se préparait à accomplir des œuvres immenses. Peut-être certains pensaient déjà à la fin du monde à l'époque. On en a des traces dans les lettres de saint Paul, entre autres. Les premiers disciples, les premiers chrétiens croyaient que c'était fini, que maintenant que Dieu était venu, il allait tout transformer. Transformer la face du monde tout entière. Nous savons que ce n'est pas le cas. Mais nous savons aussi que là où il y a ferveur, où il y a espérance, le Seigneur vient et il y a toujours ce climat eschatologique, apocalyptique, qui est normal. Il est celui-là même de l'appel. Ça ne veut pas dire que notre perception toute humaine et toute psychologique soit adéquate. Mais peu importe. Ce qui compte réellement, c'est que le Seigneur, là, se rend présent. Personne ne peut sentir ça, dans l'espérance, dans la foi, sans être interpellé par Dieu. Et même les incroyants qui le perçoivent, mais d'une façon totalement négative, dans le sens d'un écroulement inéluctable et qu'on ne peut plus contrôler, eh bien même eux en réalité sont interpellés par le Seigneur. Ils ne le savent pas parce qu'ils ne réfléchissent pas suffisamment, mais ils ont la grâce pour le faire. Donc c'est très beau de voir que le Seigneur appelle à la fois ceux qui répondent consciemment et qui commencent à comprendre quelque chose de cette vérité qui est encore très mystérieuse, de la foi, et même il appelle ceux qui n'arrivent pas à intellectualiser ce message. Et peu importe, ce qui compte, c'est d'être appelé. La construction du monde et la construction de sa propre existence, c'est la leçon de cet évangile, ne peut être réalisée que sur une recherche de la vérité. On ne peut pas prétendre construire le monde, on ne peut pas prétendre rassembler le monde, sinon autour de la vérité. Le monde, lui, veut se rassembler autour de l'absence de valeurs, parce qu'il lui semble que les valeurs, en particulier les valeurs religieuses, mais les valeurs idéologiques, c'est exactement pareil sous cet angle-là, eh bien, divisent au lieu de rassembler. C'est un raisonnement inepte, totalement stupide, qui aveugle les hommes, mais c'est bien le raisonnement de nos contemporains, de la culture, de la civilisation dans laquelle nous nous trouvons. Rassembler les hommes autour de rien, autour du vide. Jésus dit tout le contraire. Jean-Baptiste au désert crie tout le contraire. Il appelle ceux qui recherchent la vérité. Et c'est seulement ceux-là qui peuvent recevoir la vérité et qui peuvent commencer réellement à bâtir une existence cohérente et solide et forte et belle et même joyeuse. Même si c'est au niveau dans un monde qui, lui, n'est pas du tout joyeux comme le nôtre, par exemple. La fraternité humaine ne peut reposer que sur la vérité. Cette fraternité à laquelle tous aspirent, que tous appellent de leur cri, eh bien, il ne suffit pas d'avoir une condition humaine commune. Ça ne suffit pas d'être tous des hommes et des femmes, des êtres humains, pour que d'un seul coup naisse dans le cœur de chacun une fraternité, une envie d'aider l'autre. Ça ne suffit pas du tout. Seule la recherche de la vérité, parce que la vérité peut s'imposer à tous dans sa lumière, dans son évidence, peut être le fondement d'une telle fraternité. Alors toutes les morales à la noix qui prétendent depuis une cinquantaine d'années rassembler les hommes sur leur bonne volonté, sur le fait qu'ils sont des créatures biologiquement identiques les unes aux autres, appartenant au même genre, tout cela vraiment constaterait s'ils ouvraient les yeux que c'est un échec permanent. Ça suffit pas. Et Dieu vient dans le monde pour être cette vérité universelle, pour être le seul qui puisse nous rassembler. Et Jean-Baptiste au désert prêche cette vérité qui était en dehors du monde, qui était incréée, immatérielle, éternelle et qui est venue parmi nous. Et il fallait ce grand maître, ce grand saint, ce grand mystique, ce grand contemplatif qui connaissait Dieu, lui, capable de le reconnaître, comme Samuel, pour le désigner l'agneau de Dieu. En désignant l'agneau de Dieu, c'est la passion notamment qui est contenue dans cette expression. Jean-Baptiste nous dit combien il connaissait les secrets du Seigneur. Personne ne pouvait l'appeler de cette façon-là. Il est l'agneau de Dieu, celui qui permet de réconcilier les hommes avec le Père. Jésus exige une préparation. On l'a vu avec l'appel de Samuel. C'est pareil aussi pour les premiers disciples. Il ne va pas recruter ses disciples parmi des indifférents, parmi des gens qui ne le recherchent pas. Pas plus qu'à Noël, il n'est né dans l'auberge. L'auberge était fermée, il y avait trop de monde à cause du recensement, à cause de ce monde qui fonctionnait autour de lui-même. Il oblige les gens à aller au désert. Alors il ne les laisse pas seuls au désert, il envoie Jean-Baptiste. Mais il y a ce déplacement nécessaire, il y a cette... et donc la réflexion qui pousse à se déplacer, qui l'accompagne. Il y a donc toute une préparation. Et j'insiste beaucoup là-dessus, le Seigneur ne se présente pas à ceux qui ne sont pas préparés, qui ne se sont pas préparés, qui ne se sont pas laissés préparer. Le désert, ça signifie, ça symbolise le retour au sens de la transcendance. Le désert, c'est le contraire du monde, de la société, c'est loin, c'est en dehors de cette société, pas en dehors du monde, mais en dehors de son organisation. Et le désert, c'est vraiment retrouver le sens de la transcendance. Jean-Baptiste est là pour ça, pour éduquer les gens dans ce sens-là. Alors fuyons, mes frères, les peurs de ce monde, hein, les peurs du Covid, et elles ne font pas vivre les hommes, elles les mettent en état de survie. Le monde n'est pas notre ami, Dieu est notre ami.